journal.
Ce journal est présenté par Élise Thibault.
Bonsoir à tous. Le monde du spectacle à la une ce soir. Les intermittents s'affichent au théâtre de l'Odéon qu'ils occupent depuis hier et ils vont passer la nuit encore debout pour le dernier chapitre des négociations sur leur assurance chômage. Il a permis de faire éclater un scandale financier international et pourtant c'est lui qui sera demain devant la justice. Le français à l'origine du LuxLeaks, Antoine Deltour, risque jusqu'à 10 ans de prison. Notre invité dans ce journal, Yann Gallu, le député socialiste, réclame une loi pour protéger ses lanceurs d'alerte. Dans ce journal, nous irons aussi à l'université Descartes à Paris, où les proches de François Hollande tentent une opération reconquête. Non, ce quinquennat n'est pas un désastre, nous l'entendrons. Puis direction le Burundi, où une nouvelle étape dans la violence a été franchie ce matin avec l'assassinat d'un général Tutsi. La nuit va donc être longue pour les intermittents du spectacle. Les organisations d'employés et d'employeurs doivent s'entendre avant demain matin sur un nouvel accord sur l'assurance chômage. Le MEDEF réclame 185 millions d'euros d'économies. Pas question pour la CGT Spectacle. Le gouvernement est bien prêt à faire un geste pour remplir un peu les caisses. Mais là non plus, les intermittents n'en veulent pas. Ils veulent pérenniser le système de solidarité interprofessionnelle sans compter sur des dotations d'État. Les négociations ont débuté aujourd'hui à 17h et à mi-chemin, rien n'est joué, comme l'explique Denis Gravouille, le secrétaire général de la CGT Spectacle.
Plusieurs de nos revendications sont peut-être en voie d'aboutir, comme le fait d'avoir 507 heures sur 12 mois pour tout le monde. La simple question, c'est que c'est une question d'équilibre. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté. La question, c'est certains disent on va voir en fonction de comment c'est financé. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore acquis. Ce qui est à peu près acquis, c'est annuler l'effet de congé maternité ou ce genre de choses. Nous sommes en discussion avec nos employeurs en abordant un sujet qui est sensible. C'est quelle part ils prennent au financement de l'accord. C'est la moindre des choses parce que si on veut arriver à un accord équilibré, il faut aussi que les employeurs qui ont le droit d'utiliser des contrats précaires soient en mesure de participer à ce financement. Donc là, pour l'instant, leurs propositions sont totalement insuffisantes. Il va falloir voir si nos employeurs sont prêts à bouger pour avoir un accord un peu plus équilibré. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon, c'est le jeu de la négociation.
Denis Gravouille, le secrétaire général de la CGT Spectacle. Pendant ce temps, une quarantaine d'intermittents est toujours installée dans le théâtre de l'Odéon, en plein cœur de Paris. Circulation perturbée des trains dès ce soir et toute la journée de demain. Tous les syndicats de la SNCF appellent au débrayage. C'est le troisième en deux mois à cause d'un nouveau pacte social en négociation avec la direction. Mouvement très suivi puisque 3 TER sur 5 sont supprimés et un TGV sur 2 seulement va rouler. Antoine Deltour sera jugé à partir de demain. Antoine Deltour, c'est ce salarié d'une entreprise d'audit du Luxembourg qui a fait éclater le scandale LuxLeaks en 2012. Il est accusé de vol domestique et de violation du secret professionnel, notamment pour avoir fourni à un journaliste les preuves que son cabinet organisait l'optimisation fiscale de nombreuses multinationales, faisant ainsi disparaître des milliards d'euros d'impôts. Nous sommes en ligne ce soir avec Yann Gallu, député PS du Cher et auteur d'une proposition de loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Bonsoir Yann Gallu.
Bonsoir.
Alors cet homme, Antoine Deltour, risque jusqu'à 10 ans de prison dans cette affaire. Un lanceur d'alerte poursuivi par la justice, est-ce que c'est un cas isolé ?
Alors ce n'est pas un cas isolé dans certains pays et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une mobilisation nationale, puisqu'il s'agit d'un Français, mais aussi international, pour protéger, accompagner et soutenir Antoine Deltour, qui est victime, je dirais, de l'opacité de certains pays qui ont fait de l'évasion et de l'optimisation fiscale, eh bien, un sport national. Donc, on a eu des poursuites de lanceurs d'alerte et on les a encore en Suisse. On voit qu'on les a au Luxembourg. Et bien sûr, moi, j'appelle à l'abandon des poursuites contre Antoine Deltour. Et puis, je le soutiens totalement, comme de nombreux parlementaires français et européens, car il a fait son devoir de citoyen. Il faut savoir que grâce à Antoine Deltour, eh bien, il y a le scandale LuxLeaks qui a explosé et que pour moi, ce lanceur d'alerte qui a fait ça pour informer non seulement les Français mais les Européens des pratiques scandaleuses de certains cabinets, eh bien, il faut les protéger plutôt que de les poursuivre. Mais c'est vrai que ces pays-là qui vivent de l'optimisation fiscale, qui vivent de cette évasion fiscale cachée, eh bien, ont encore des règles pénales pour les poursuivre et donc je crois que face à cette opacité, capacité face à ce système, eh bien, il faut opposer une résistance citoyenne, mais il faut aussi que l'Europe tape du poing sur la table.
Et vous parlez de protéger les lanceurs d'alerte, mais quand on a des domaines aussi différents que la finance, la santé ou encore l'environnement, comment on fait justement pour les protéger ?
Alors justement, d'abord, il faut qu'il y ait des protections pays par pays, mais aussi une protection européenne, parce que là, Antoine Deltour est un Français qui est victime d'une législation du Luxembourg. En France, ça serait un peu plus compliqué et on pourrait mieux le protéger. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, en France, il faut créer un véritable statut des lanceurs d'alerte. Car on a vu que ces lanceurs d'alerte, qui parfois se réfugient en France, eh bien, aujourd'hui ne sont ni accompagnés, ni protégés. Ils peuvent être poursuivis pénalement, ils peuvent être licenciés. Et on a eu plusieurs cas en France où, justement, c'était le cas. Donc, je souhaite, avec d'autres collègues parlementaires, proposer une législation, je l'ai fait en décembre dernier, pour que justement, une fois qu'on a reconnu la légitimité de l'alerte, eh bien, la personne puisse être accompagnée, protégée, que ses frais d'avocat puissent être pris en compte, parce que ça coûte extrêmement cher, qu'il puisse ne pas être licencié comme cela. Donc, il faut créer un statut global et général du lanceur d'alerte, car il y a des dispositions dans le droit interne français, mais elles sont éparpillées dans différents codes. Donc, on s'y perd. Et il n'y a pas de cohérence dans la protection des lanceurs d'alerte qui sont aujourd'hui des citoyens qui risquent leur vie professionnelle, qui risquent parfois leur vie tout court et dont il faut protéger l'avenir. On a des lanceurs d'alerte qui se retrouvent au RSA, parce que vous savez, quand vous dénoncez un scandale, qu'il soit financier, qu'il soit sanitaire, qu'il soit environnemental, eh bien vous êtes grillé pour retrouver un emploi derrière. Donc il faut absolument, comme c'est le cas dans d'autres pays, eh bien on ait une législation spécifiques qui les accompagnent, qui les protègent, mais aussi, voire qui les indemnisent.
Mais est-ce que c'est possible dans un pays comme la France, où par exemple Edward Snowden est persona non grata ?
Oui, je crois que c'est possible dans un pays comme la France. Alors c'est vrai qu'Edward Snowden, c'est un vrai cas, mais n'oublions pas que il n'est ni français et les faits ne se sont pas déroulés en France. Il n'est pas poursuivi par la France. Mais oui, je crois que c'est possible. Il faut protéger nos lanceurs d'alerte. On a par exemple d'autres personnes qui ont aidé la justice française dans l'affaire HSBC, dans l'affaire UBS, et puis on a eu aussi l'affaire du Mediator qui a fait beaucoup parler d'elle, où bien quelque part c'est une lanceuse d'alerte qui
Irène Frachon
qui a été la première à dénoncer les faits. Aujourd'hui, on a avec la Société Générale une commissaire de police, une commandante de police qui a dénoncé les faits dont elle a été et les pressions dont elle est victime. Donc, il faut absolument aller de l'avant. On a, je le crois, une fenêtre qui est encore plus forte depuis l'affaire du Panama Papers, où s'il n'y avait pas eu un lanceur d'alerte qui a donné ses fichiers à un journal allemand, eh bien, on n'aurait pas eu cette découverte du Panama Papers. Donc, on se rend bien compte que ces citoyens-là doivent être accompagnés et protégés. Et donc, avec d'autres collègues, eh bien, j'ai proposé cette législation-là.
Une dernière question, Yann Gallu. Il y a 2 semaines, le Parlement européen a voté une directive secret des affaires sur laquelle on a entendu beaucoup de choses, un peu tout et n'importe quoi, notamment qu'elle pourrait empêcher les lanceurs d'alerte d'exister. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Alors, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. Car pour l'instant, on a des dispositions sur le secret des affaires. On nous garantit officiellement, la Commission européenne nous garantit officiellement que cette législation ne concerne pas les lanceurs d'alerte et ne concerne pas les journalistes, sauf que c'est pas très clair. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine ambiguïté. Alors ce n'est peut-être pas aussi exagéré que le disent certains, mais il faut être extrêmement vigilant, tant en France qu'au niveau européen, pour que cette directive ne concerne pas les lanceurs d'alerte. Et tant que ce n'est pas écrit noir sur blanc, cette ambiguïté, elle perdure.
Merci Yann Gallu, député PS du Cher et porteur d'une proposition de loi sur les lanceurs d'alerte. Le procès d'Antoine Deltour et de 2 autres prévenus s'ouvre demain au Luxembourg. Yann Gallu, qui n'était donc pas ce soir à l'université, Paris, Descartes, 650 militants socialistes et 20 de ministres ETE réunis. Grand raout organisé par le PS et principalement Stéphane Le Foll, ce proche de François Hollande, porte-parole du gouvernement, a lancé son propre courant. Iran et haut la gauche, un titre en forme d'interpellation pour rappeler ceux qui seraient tentés de fuir ou de dénigrer le bilan de ce quinquennat. Si l'on en croit les militants présents à ce meeting, Héloïse de Neuville, tout cela n'est qu'un grand malentendu.
Oui, un grand malentendu. Ils étaient là ce soir pour le crier avec cette onomatopée et haut. Et pour attirer l'attention, haut pour affirmer leur conviction, pour le moins à contre-courant. Oui, le bilan gouvernemental est bon. C'est ce que prêche par exemple Michel Souatté. Il est militant socialiste depuis 40 ans.
Le tort qu'on a eu au démarrage, c'est de ne pas dire la réalité de ce qu'on a trouvé. La situation était beaucoup plus grave que ce qu'on avait prévu. Et ça, on a eu le tort de ne pas insister là-dessus parce que la situation était catastrophique. Et puis, il y a eu cette espèce de land bashing dès le démarrage, avec les histoires du casque de scooter, ce genre de plaisanterie, quoi. Et ça, on a du mal à s'en remettre quand, effectivement, il y a un matraquage avec ce type d'image. Le bilan est meilleur qu'on ne le dit. Donc, il faut absolument remonter ça, quoi.
Après la désinformation et le bashing systématique, il est temps pour eux aujourd'hui de rétablir leur vérité, brouillée par le vacarme médiatique et par une gauche qui se complaît dans la contestation. C'est ce que dénonce Bruno Leroux, président du groupe PS à l'Assemblée nationale.
Les premiers à dire que ce que nous faisions n'était pas bien étaient les gens de gauche. Et en cela, je pense qu'ils ont introduit une sorte de brouillard. Vous savez, la droite, elle ne nous a pas donné de coups ces quatre dernières années. Elle a laissé la gauche remettre en cause ce qui était fait à tel point que les conquêtes que nous avons menées pour les Français ont pu disparaître du viseur. Eh bien, ce genre de réunion, c'était fait pour les rappeler.
Aucune autocritique sur l'action gouvernementale, donc. Ce soir, on reconnaît simplement un manque de pédagogie. Donc rien qui pourrait empêcher François Hollande de se représenter en 2017.
Un reportage signé Héloïse de Neuville. La Cour pénale internationale se penche sur le cas du Burundi. Le pays est en proie à d'importantes violences depuis un an et demi, depuis l'annonce par Pierre Nkurunziza de sa candidature à un troisième mandat présidentiel. 270 000 personnes auraient quitté le Burundi à cause de meurtres, viols et actes de torture perpétrés par le régime. Nouvelle étape franchie aujourd'hui dans ces violences, l'assassinat d'un important militaire Tutsi, le général Kararuza, abattu avec toute sa famille, Éléonore.
Général Tutsi, Athanase Kararuza, était au Burundi le conseiller du premier vice-président. C'est en compagnie de sa fille qu'il emmène au lycée et de sa femme qu'il est assassiné dans sa voiture ce lundi à Bujumbura. Attaqués à la roquette et à la grenade, ils sont tués sur le coup. Il avait servi dans les forces armées du Burundi, à majorité Tutsi, et dans la mission de paix de l'ONU en République centrafricaine entre fin 2013 et fin 2015. Le contexte est là. Une violence grandissante dans le pays. Dès 2014, une nouvelle milice s'est créée avec un camp d'entraînement. Juillet 2015 voit arriver le troisième mandat présidentiel de Pierre Nkurunziza. Dans un pays composé d'ethnies Hutus et Tutsi, la contestation grandit peu à peu contre cette réélection. Face à cela, arrestations arbitraires, viols, tortures deviennent monnaie courante. Des tensions avivées par les déclarations du président du Sénat, Révérien Dikourio, qui déclare en novembre 2015 « Vous devez pulvériser, vous devez exterminer ces gens qui ne sont bons qu'à mourir. Je vous donne cet ordre, allez-y ». Les réseaux sociaux s'enflamment eux aussi d'une rhétorique de la haine. Ce n'est pas sans rappeler la situation du pays en 1993. 350 000 personnes sont alors massacrées devant la communauté internationale médusée. Appartenir donc aux anciennes forces armées du Burundi, unité à majorité Tutsi, est mal vu. Les motivations derrière l'assassinat d'Athanase Kararuza sont encore inconnues.
Éléonore Geneste, l'épidémie Zika recule en Amérique latine et notamment au Brésil. Et pour cause, l'hiver a débuté, les moustiques sont donc moins nombreux. Les scientifiques craignent en revanche un retour et de plus belle dès la fin de l'hiver. Rassemblés en colloque à l'Institut Pasteur à Paris, ils se sont montrés inquiets pour les zones tropicales. Car pour l'Europe, bien au contraire, leur message est rassurant. Notamment parce que les moustiques tigres qu'on trouve dans le sud du continent sont très peu contagieux, comme l'explique Annabella Fayou, chercheuse à l'Institut Pasteur.
Entre le moment où elle prend du sang sur quelqu'un qui est malade et le moment où la femelle de moustique elle-même va pouvoir contaminer quelqu'un en injectant la salive, en piquant quelqu'un, il faut 15 jours. C'est énorme. Par exemple, pour le virus chikungunya, il faut 3 jours. Entre le moment où le virus est absorbé par le repas de sang de la femelle de moustique et le moment où le virus est détecté de la salive de la femelle de moustique. Donc en fait, ce décalage de quasiment 10 jours entre les deux virus par rapport à la même espèce de moustique avec des salvopictus est énorme. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique en fait que les moustiques pour Aedes albopictus et Zika, il faut faire mener une lutte antivectorielle, c'est-à-dire lutter contre le moustique en tuant le moustique, c'est-à-dire épandre de l'insecticide sur le terrain de façon à tuer le moustique et réduire les densités de moustiques en dessous d'un seuil où en fait le risque d'être de contamination est au minimum.
En gros, faut pas le laisser vivre longtemps, quoi, ce
faut
moustique.
Faut pas le laisser vivre longtemps. Et si on arrive à tuer le moustique pour que le moustique ne vive pas plus de 2 semaines, on a gagné.
Et pas de moustique en ce moment. La météo sera encore très fraîche demain, entre 6 et 10 degrés dans la moitié nord du pays, 10 à 16 dans le sud, et ce sera sous la pluie.